Donc, juste une petite précision, je ne suis, alors le que n'est pas restrictif, hein, mais je suis que délégué défenseur des droits. Je vais expliquer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, moi je ne peux pas augmenter. Hein. Ouais. C'est bon? Ça va? Ça va mieux là? Donc, en fait, je suis référent enfant et pas référent du délégué, je ne sais pas comment ça a été dit. Voilà. Mais bon, qu'importe. Donc, je vais diviser mon propos en trois parties. La première, je vais la passer rapidement, mais je suis quand même obligé de l'évoquer si toutefois vous ne la connaissiez déjà pas, mais peu importe. Je suppose que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est le défenseur des enfants, qui est aujourd'hui dirigé par une femme, Madame Hédon. Deuxième partie, l'action plus spécifique du défenseur des enfants, et là je rentrerai effectivement dans le contenu de ce que Michel Billet a dit à l'instant, c'est-à-dire quelles sont les actions principales ou les positions principales du défenseur des enfants dans son dernier rapport d'activité 2020, et je terminerai l'intervention par le délégué de terrain que je suis en Moselle, puisque je suis mosellan. Quel est ce projet de création qu'on a initié avec l'appui du défenseur des enfants, bien entendu, qui est la création d'une maison des droits de l'enfant. Mais je vais vous l'expliquer. Et qui a été lancé, le projet a été lancé vendredi 26 novembre, donc la semaine dernière. Donc, plus neuf que ça, je ne peux pas. Donc, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante, au sens législatif du terme. Il y en a à peu près une cinquantaine en France, hein, que vous connaissez. Les plus connus, c'est la CNIL, le CSA, etc. Même la Cour des comptes, les juristes estiment qu'elle a une position d'autorité administrative indépendante. Voilà. Et la particularité de l'AAI, qui est le défenseur des droits, c'est la seule à être inscrite dans la Constitution française. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la loi 333 du 29 mars 2011, la loi 2011-333 du 29 mars 2011, est une loi organique. Ceci explique cela. Donc, la défenseur des droits, aujourd'hui, c'est une femme. Donc, Madame Claire Hédon, qui a été nommée donc en 2020 pour 6 ans sur un mandat irrévocable et non renouvelable. Voilà, son prédécesseur, c'était Jacques Toubon, qui a fait beaucoup pour la notoriété de défenseur des droits. Voilà, et moi, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas très optimistes quand je l'ai vu arriver, parce que j'avais quand même je sais pas moi, comment dire, un dossier, on va dire ça comme ça, des souvenirs, où je cumulais plus de désaccords positifs que d'accords. Et puis là, on est ravis d'avoir travaillé avec ce gars-là, quoi. C'était assez, son mandat était étonnant et détonnant. Voilà, les compétences du défenseur des droits, alors patronné par la défenseur des droits, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, c'est de s'occuper des litiges que des personnes peuvent avoir, donc les personnes, grand public, vous, moi, peuvent avoir vis-à-vis des services publics. Bien sûr, les droits de l'enfant, c'est ce qui va nous occuper. La lutte contre les discriminations, alors pour les plus anciens, on va être poli, c'est l'ancienne ALDE, qui maintenant a été transférée au défenseur des droits, et la promotion de l'égalité. Voilà, le respect de la déontologie par des personnes exerçant les services de sécurité, c'est que dès lors où quelqu'un est mécontent ou insatisfait ou a une réclamation à faire contre la façon dont les services de gendarmerie, police ou le vigile privé comment dire, les ont traités, ils peuvent se tourner vers le défenseur des droits pour accompagner leur litige. Et puis, l'orientation et protection des lanceurs d'alerte, c'est peanuts. Ça ne représente rien en termes de réclamation, mais ça fait suite à une émission, on va pas perdre de temps là-dessus. Je préfère pas perdre de temps, on n'en parle pas. C'est peanuts, c'était très réactif. Enfin, le président de la République de l'époque a transféré ça au défenseur des droits à la suite d'une émission de télévision qui mettait en cause une personne qui risquait son emploi parce qu'elle avait lancé une alerte. Le gouvernement, sous François Hollande, a dit, bougez pas, on s'en occupe, on file au défenseur des droits. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec ça, mais c'était pas trop prévu. Voilà, et puis bon, pardon. Voilà. Donc, le défenseur des droits dispose de 4 adjoints. Donc, je ne vais pas vous faire la galerie de portraits des quatre, puisqu'il y a celui qui m'intéresse, on va en parler après. Donc, 4 adjoints, ça veut dire l'adjoint défenseur des enfants, l'adjointe aux discriminations, l'adjoint au service public, Daniela Gazinski, etc. Bref, c'est ça les adjoints. Donc, la défenseur des droits est nommée par le président de la République et les 4 adjoints sont nommés sur proposition du Premier ministre. C'est la loi. 226 agents, donc juristes, personnel administratif, répartis sur le territoire et surtout au siège à Paris. Voilà. Donc, et puis 536 délégués, en fait, on est monté à 550 l'année dernière, bénévoles, dont je fais partie. Voilà. Donc sur le terrain, les 536 délégués, devenus 550 bénévoles, mais ça, ce serait le rapport d'activité qui va sortir l'année prochaine. Mais pour l'instant, on en était là en 2020. On a traité, alors, une galerie de chiffres, 165 000 demandes d'intervention de conseil. C'est une part qui a augmenté. C'est-à-dire qu'avec la dématérialisation des services publics, avec le démantèlement des services publics, moi, j'ai démarré en 2015 cette fonction-là. La part de conseil d'orientation, en fait, de décodage du langage administratif, pour faire vite, elle a augmenté considérablement. Moi, je ne faisais pas ça au début. Maintenant qu'il faut tout passer par les ordinateurs, les gens qui sont paumés, et pas forcément des gens qui sont en difficulté sociale. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont perdus et pour lesquels on a des moyens d'intervention, sinon je ne serais pas plus malin qu'eux. Voilà. Donc sur ces 165 000, on a 83% qui concernent des dossiers de réclamation, donc des gens qui mettent en cause, peu importe qui, mais dans les différents domaines, il y a des mis en cause, d'administration, de personnes publiques ou de personnes morales ou de personnes physiques. Voilà, et 3 000 qui concernent les atteintes aux droits de l'enfant, c'est peu. C'est beaucoup en termes de complexité des dossiers, mais c'est peu par rapport à la masse des 165 000 réclamations. Et à mon avis, il y a des raisons, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Et puis, surtout, 74% des réclamations sont traitées lors des permanences par les délégués que nous sommes. Donc, ça veut dire que la part des agents à Paris, cette réclamation, elle est importante, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est la part de terrain. Donc, on a des permanences, on reçoit les gens toutes les semaines. Je reçois des gens donc toutes les semaines. On a des contacts par mail. Et plus malheureusement vous réussissez vos dossiers, plus ça c'est. Et puis on peut vous contacter directement, ce qui fait que ça devient inflationniste. Et comme dirait l'autre, si on avait su ça, on ne serait pas venu. Voilà, le défenseur des enfants, donc est l'adjoint de Madame Edon. Petite remarque, on parlait de genre tout à l'heure, mais quand même, la défenseur des enfants précédait le défenseur des droits en l'an 2000. Maintenant, il est avalé par le défenseur des droits, mais défense des enfants, forcément, c'est des dames. Alors, je les connais toutes, elles sont très bien, ce n'est pas disqualifiant, mais je sais pourquoi dans les stéréotypes, enfant égale femme. Mais le défenseur des droits, c'était des hommes. Voilà, évidemment, M. Baudiste, décédé trop vite, et puis M. Toubon. Donc là, je trouve intéressant que le défenseur des droits et le président de la République, le Premier ministre, indépendamment de toute option politique, ça n'a rien à voir, et inversé. Les nominations pour faire du défenseur droit la défenseur droit et pour l'enfant proposer le défenseur des enfants. Voilà, donc lui pareil, mandat irrévocable et non renouvelable. Irrévocable, ça veut dire que ces gens-là sont protégés de toute atteinte, je ne parle pas d'atteinte privée, mais d'atteinte publique dans le cas de leur mandat par n'importe qui. Monsieur Estrosi s'y était essayé lorsqu'il avait demandé à ce que Monsieur Toubon soit démis de ses fonctions. Lorsqu'il y avait une affiche qui montrait deux policiers de face et des jeunes de dos, et la pub s'était marquée « Toi aussi », en parlant des jeunes, « Toi aussi, tu as des droits », M. Estrosi était monté au créneau en disant « Monsieur François Hollande, il faut démettre ». Ben non, on ne peut pas démettre le défenseur des droits. Donc, pas plus, on peut démettre le défenseur des enfants. Donc, il en a été question ce matin. Le défenseur des droits est chargé de défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant, consacré par la loi ou en engagement international. Évidemment, l'engagement des engagements des engagements, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, évidemment. Pour nous, c'est notre curseur. Alors, l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas une définition juridique. Vous ne trouverez pas dans les textes ce que c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant. C'était dit ce matin, c'est le résultat d'une évaluation, si possible collégiale, je l'ai entendu, c'est intéressant. Et ceci fait que, par exemple, je dis ça souvent aux étudiants quand ils ont du mal à manier, mais les droits fondamentaux de l'enfant prévus par la CIDE, par exemple, un des droits, c'est le droit de l'enfant, tout enfant, à vivre en famille, sauf si son intérêt supérieur commande qu'il en soit autrement. Auquel cas, il faut l'éloigner. Voilà, ça, c'est un exemple. Voilà, donc le défenseur des enfants, il défend et promeut l'intérêt supérieur des enfants et les droits de l'enfant. Donc, du coup, avec Eric Dolmar, moi comme d'autres, on prend notre valise et on va dans tous les endroits, collège, lycée, partout où on est invité ou partout où on s'invite. Pour faire part de ça, évidemment, on agit pour la protection des enfants. Voilà, on verra comment. Et puis, on traite les saisines ou les réclamations, si vous préférez, mettant en cause les droits de l'enfant. Là, c'est du traitement direct des saisines qu'on peut avoir, sans préjuger au départ, puisqu'on est toujours dans le contradictoire. Ce n'est pas parce que les gens nous saisissent pour une réclamation mettant en cause les droits de l'enfant que ceux-ci ne sont pas respectées. On va dans le contradictoire avant de proposer comment dire, ou une médiation ou alors une décision dans des situations plus graves. Je viens après, ne soyez pas impatients, on va venir sur les décisions tout à l'heure. C'est la même chose. Donc, en 2020, il y a eu 2758 saisines individuelles et collectives. Protection de l'enfance, c'est 30%. Je passe vite là-dessus, mais ça vous donne une idée. Scolarité périscolaire, éducation petite enfance, 21%. Handicap et santé, 16%. Ça, c'est vraiment le gros morceau de saisine. Ensuite, filiation justice familiale, 12%. Les mineurs étrangers, 10%. Alors, en sachant que pour les mineurs étrangers, les mineurs non accompagnés, les mineurs non accompagnés, c'est pour les dossiers qui traitent vraiment des spécialités des mineurs accompagnés, parce que sinon, en droit, les mineurs accompagnés sont des mineurs au titre de la protection de l'enfance en danger. Donc, on rejoint l'article 375 et suivant du Code civil. Voilà, la justice pénale, 2%, je vais vous en parler rapidement après. Les questions d'adoption, je vais vous en parler rapidement après, lors d'une décision de défenseur des droits là-dessus. Et puis, autres, voilà, mais tout dedans. Voilà, le schéma, vous voyez que le schéma, c'est les mêmes stats, hein, mais ça vous donne une idée que la question de protection de l'enfant, justice familiale, handicap santé sont vraiment les gros morceaux des saisines. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. Enfin, je trouve qu'il y a un intérêt à regarder ce fromage, ce camembert, dans la mesure où vous voyez que les saisines, il n'y a pas une catégorie d'âge plus qu'une autre. C'est vraiment 4/4, quoi. Voilà. Ça m'a surpris, moi aussi, hein, de constater ça au niveau national, mais parce que dans mes saisines à moi, dans mes permanences à moi, c'est quand même nettement des ados, et pour les familles, des enfants d'âge scolaire. Mais là, on est vraiment sur les saisines globales, sur un équilibre. Autre intérêt, je trouve, de ce camembert, c'est regarder qui nous saisit, quels sont les auteurs. Les mamans, 30%, les papas, on va dire 12% les pères, 13%, 13,5%, les parents ensemble, 11%. Voilà. Et ensuite, les associations, 14%, qu'on pourrait regrouper avec 3,5% de services médico-sociaux. Voilà. Et grands-parents, 2%. Et autres, c'est les voisins, imaginez, on peut saisir les droits de l'enfant pour des manquements réels ou supposés en droits de l'enfant en étant un quidam. Voilà, donc chaque année, le défenseur des droits publie un rapport annuel. Alors, il ne publie pas que cela, mais il est de tradition depuis 2015 que le défenseur des droits, donc M. Toubon, dès l'instant où il a été nommé, et maintenant Mme Hédon, elle suit la même tradition, présente au président de la République un rapport sur un sujet de son choix, du choix du défenseur des droits, bien sûr. Donc, le rapport handicap et protection de l'enfance, Michel Billet, c'est quoi? Il en retourne, puisque nous sommes croisés au mois de septembre aux assises nationales des associations de milieu ouvert, et le sujet, c'était ça. Et on peut dire rapidement qu'il n'y a pas grand-chose qui a avancé depuis ce rapport 2015. Je vais vite, mais c'est un peu ça. Alors, un point sur les rapports. Les rapports des défenseurs de droits sont gratuits, accessibles en ligne, tous les rapports, hein, ceux-là, entre autres, mais les autres aussi. Ils sont tous bâtis de la même manière, c'est-à-dire une problématique du sujet, c'est vraiment très étudiant, hein, ce que je dis, une problématique du sujet, des analyses et des recommandations à chaque fois. Donc, les défenseurs ne se contentent pas de pointer le train qui arrive en retard, produit des recommandations. Élément important, ces recommandations sont portées au plus haut niveau des pouvoirs publics ou des administrations centrales, pour créer des évolutions de droit. Voilà. Le droit à l'éducation, 2016, on parlera des cantines notamment, c'est là que l'on retrouve. 2017, c'est une analyse, un point d'étape sur la mise en œuvre de la CIDE en France depuis 1990, quand elle a été ratifiée par la France, et 2017. De la naissance au commencement des droits, 2018, c'est un rapport extraordinaire. Alors, monsieur le psychiatre, je ne sais plus son nom, Marcelli, j'espère qu'il l'a lu, mais c'est du point de vue juridique. Mais c'est surtout pour contrer un stéréotype qui est le suivant, les enfants de 0 à 6 ans, ils ont aussi des droits. Voilà. Mais il y a un autre stéréotype que le défenseur pointe souvent, c'est aussi les enfants ne sont pas que des tout-petits. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais c'est ça. Ce rapport est vraiment... Enfance et violence à part des institutions publiques. Là, c'est une analyse des violences institutionnelles à l'école et dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux. prendre en compte la parole de l'enfant, c'est le droit à l'expression de l'enfant, comment celui-ci est respecté ou pas, c'est respecté ou pas du tout dans ses droits fondamentaux par les acteurs qui doivent le faire, c'est le rapport de l'an passé. Et puis, en 2017, alors ça c'est un rapport supplémentaire, il y en a plein hein, des rapports, le défenseur produit énormément de rapports, mais j'ai sorti celui-là, 2017, dans la mesure où, au niveau du grand public, et ça fera le lien avec la troisième et dernière partie de mon intervention, le grand public n'est pas au courant des droits de l'enfant. Enfin, ce rapport 2017, dirigé par l'Institut de sondage Ipsos, démontre qu'en fait, le grand public ignore ce que droit de l'enfant veut dire. Et quand il n'ignore pas, il ne sait pas comment que ça s'organise, quoi, grosso modo. Il y a 48% des personnes interrogées pensent que les enfants n'ont aucun droit. Je crois qu'il y a 2% seulement des personnes interrogées qui savent que la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant, existe. Donc, ça veut dire que la visibilité des droits de l'enfant en termes de droit public est vraiment très absente. Ou il y a une invisibilité de la connaissance, une méconnaissance des droits de l'enfant par le grand public, qui plus est des institutions de l'enfance. Parce que quand on rentre dans le rapport et qu'on demande aux gens dans l'enquête, mais qui s'occupe de la protection de l'enfance, alors là, c'est de la brasse coulée en apnée. Le juge pour enfants sort, le conseil départemental, jamais. Voilà, alors là, c'est nobody, il n'y a personne. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail de mise en visibilité à la fois des droits et à la fois de mise en connaissance des institutions qui s'en occupent. Et puis, le rapport santé mentale des enfants, il est là. Voilà, mais je ne vous le donne pas parce que pour l'instant, c'est le seul que j'ai piqué, donc il vient de sortir. C'est vraiment en lien direct avec ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que ce n'est pas la santé mentale uniquement que du point de vue psychiatrique, c'est la santé mentale au sens de la définition de l'OMS, c'est-à-dire le bien-être. Un état complet de bien-être physique, mental et social et psychique. Voilà. Donc, il y a vraiment une analyse des problématiques et des analyses qui sont faites sur les situations de harcèlement scolaire. Évidemment, les questions psychiatriques, on va en parler dans une des décisions là, dans quelques minutes. Sur je ne sais pas quoi d'autre, je l'ai lu en plus récemment. Sur les familles, sur l'explosion des troubles psychiques liés au confinement, sur... l'urgence à protéger la santé mentale des enfants les plus vulnérables. Donc, à chaque fois, il y a un point de problématique, des commentaires et des préconisations. Vraiment, je vous le conseille. Pareil, tout ça, c'est en ligne. Donc, c'est gratuit. Il n'y a aucun problème. Et chaque fois que vous cliquez sur ces liens-là ou si vous allez sur le moteur de recherche, celui qui vous plaît, vous faites rapport santé mentale défenseur, vous allez tomber dessus. Et vous cliquez, vous allez avoir une synthèse pour les paresseux dont je fais partie, une synthèse, et puis le rapport complet que je suis obligé de lire parce que je suis délégué. Donc, là, je parle. Voilà. Quelques décisions concernant les droits de l'enfant. Donc, alors, il y a deux types. Si vous voulez, quand on traite des réclamations au niveau local, surtout au niveau national, enfin, quand le défenseur et les services de défenseurs des enfants en particulier reprennent des réclamations, ils produisent ce qu'on appelle des décisions. En fait, le terme est un peu ambigu parce que la décision que le défenseur prend, elle n'est pas susceptible de sanctions. Donc, on devrait plutôt dire des recommandations. Mais le terme administratif qui convient, c'est le terme de décision, c'est la loi du 29 mars 2011, et c'est comme ça. Donc, les décisions, en fait, c'est des réclamations qui ont été traitées par le défenseur et qui font office de point de vue décisif sur une affaire donnée, produite par le défenseur, et qui peut servir comme observation au juge, qui peut servir de point de rectification ou de vigilance à ceux à qui c'est destiné, c'est-à-dire les mises en cause. Donc la première décision, j'en ai sélectionné, hein, je n'ai pas dit toutes, la décision, donc celle du 28 mai 2020, qui est sous vos yeux, elle traite du... En fait, c'est de la protection des enfants contre le harcèlement scolaire, qui fait l'actualité, puisque voilà, il va y avoir un texte qui va sortir. Là, vous voyez qu'on est en 2020. Une autre décision du 30 juin 2020, c'est sur les enfants handicapés, et notamment les discriminations des enfants handicapés en raison de leur état de santé, surtout dans les cantines, où des enfants ont été exclus de cantines parce que les régimes étaient trop compliqués à suivre, ou que les allergies étaient trop compliquées, ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, le défenseur a rappelé, j'étais en formation encore avant hier à Paris là-dessus, a rappelé l'obligation qui est faite notamment aux mairies pour la partie primaire, département ou région pour les parties collège et lycée, mais de mettre en place des projets d'accueil individualisés. et ils n'y sont pas tout le temps. Voilà, ce qui fait qu'il y a des enfants qui sont exclus, et là, on va traiter ça sous l'angle des discriminations. Voilà, une décision, encore une autre, qui porte sur l'assistance éducative du 16 juillet 2020. En fait, c'est depuis la réforme de la procédure d'assistance éducative, le défenseur des enfants a rappelé qu'il devait y avoir un administrateur ad hoc pour les enfants qui n'étaient pas capables de discernement dans le cadre des procédures d'assistance éducative, et aussi que les parents et les mineurs concernés et les services sociaux devaient être entendus par le juge. Et ce n'est pas le cas. Enfin, pas toujours le cas. Une autre concernant l'adoption, je vous ai dit que j'en parlerai, c'est notamment pour promouvoir le droit fondamental des couples homosexuels et des personnes célibataires à pouvoir adopter, alors qu'il y a des barrages qui ne sont pas des barrages de droit, mais qui sont des barrages d'idéologiques par les services d'instruction à l'adoption, ou des décisions judiciaires, d'ailleurs. Voilà. Une autre décision qui va vous parler, puisqu'elle est reprise dans le rapport sur la santé mentale, le dernier qui est sorti il y a 15 jours, c'est notamment le scandale de l'hospitalisation des mineurs dans les sections adultes des hôpitaux psychiatriques. Voilà, ça c'est un véritable scandale, c'est pas réglé. On en a reparlé encore la semaine dernière avec Eric Delmar. C'est quelque chose qui est au travail, mais il faut absolument que ça change, c'est pas possible, quoi, cette affaire-là. Ça vire du scandale. Deuxième type de possibilité, de levier qu'a le défenseur des enfants ou le défenseur des droits, parce qu'ils ont les mêmes leviers là pour le coup, c'est de produire aussi des avis. Alors les avis, ce sont quoi, vous vous en doutez, c'est-à-dire on cumule un certain nombre de réclamations du même type et on dit mais si elles concernent la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la réglementation en vigueur ou dans les circulaires d'application dans les administrations centrales, etc. etc. Et à ce moment-là, le défenseur prend des avis et les propose en évolution de la réglementation au gouvernement ou en évolution de la législation au Parlement ou pour les circulaires dans les administrations centrales, pour que les choses bougent. Voilà, donc là, le défenseur est intervenu sur la question du code de la justice pénale des mineurs. Et voilà, il a rappelé au passage qu'il serait peut-être intéressant que, pas de se préoccuper d'avoir un code, je vais vous en parler dans 3 secondes après, d'un code de procédure pénale, mais ce serait bien aussi d'avoir un code de l'enfance, qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Voilà, mais je reviens après. Autre avis, alors les absences de scolarisation, alors ça, moi, c'est un truc que j'ai découvert, je me doutais que ça existait, mais pas dans cette ampleur-là. Ça concerne les enfants vulnérables, les enfants du voyage, les enfants hébergés, alors enfants au sens de l'ACID, hein, 0-18 ans, hein, on est d'accord ? Donc, qu'on soit d'accord là-dessus. Les enfants hébergés en hôtel social, etc. Les enfants qui bénéficient d'accompagnement scolaire à l'intérieur des établissements médico-sociaux sans être inscrits à l'éducation nationale, ce qui est un comble, ce qui fait qu'on ne peut pas établir de certificat scolaire, de scolarité, par exemple, ce qui est un comble. Et donc, le défenseur a donné un avis qui est au travail aujourd'hui pour que, en fait, que le droit fondamental à la scolarisation soit un droit effectif et non pas un droit virtuel. Donc, j'ose plus dire le chiffre parce que Eric Delmar m'a dit la semaine dernière, mais je crains de le trahir, mais on a de l'ordre de plus du million d'enfants qui disparaissent des radars de la scolarisation, alors que l'Éducation nationale et M. Blanquer dit tout enfant est scolarisé, ce qui est faux. Et dans les établissements sociaux, médico-sociaux, quand ils ne sont pas scolarisés par l'Éducation nationale, ils sont scolarisés par des dispositifs adaptés, certes, mais ils ne sont pas inscrits. Donc, quand on veut des certificats de scolarité, on n'en a pas. Voilà. Voilà quelques exemples de décisions et d'avis. Il y en a plein. Hein. Si vous allez sur le site, je vous donnerai en dernière diapo les moyens d'y aller. Voilà. Mais vous verrez qu'il y a plein de décisions, plein d'avis. C'est assez foutraque parce que du coup, même nous, on a du mal à s'y retrouver. Mais qui sont vraiment extrêmement intéressants pour se donner un point de vue lorsqu'on a une réclamation, un peu comme la jurisprudence, si vous voulez. Quelles sont les décisions portant sur des affaires similaires qui peuvent nous guider pour remettre en cause la modalité de traitement par une administration qui dysfonctionne, par un établissement qui dysfonctionne, etc. Là, je vous en ai parlé à l'instant, j'en remets une couche. Les 4 anciennes défenseurs des droits, des enfants, pardon, et puis 1000 personnalités, plus une, parce que je l'ai signé, donc 1001, mais je ne suis pas une personnalité, non, je déconne, mais c'est vrai que j'ai signé, sous le patronage de Jean-Pierre Rosenzweig, que vous connaissez sans doute, prêchent pour, ils ont raison, pour avoir un code, non seulement un code de l'enfance unique, mais aussi un ministre en plein exercice et pas un secrétaire d'État qui a été nommé à toute vitesse après une émission de télévision ravageuse. Voilà. Comment ? 1002. Moi, SNDPF. Non, mais je déconne. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs milliers à avoir signé ce code de l'enfance, enfin, cet appel à un code de l'enfance unique, qui participera, ça ne va pas régler tout le problème, mais ce code de l'enfance unique peut participer d'une meilleure visibilité des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ils sont éclatés dans plein de codes et on ne sait pas où ils s'y retrouvent. Donc, dernière partie de mon intervention, j'essaie de respecter l'horaire. Michel, ça va ? Merci. Donc, alors, on reprend, vous voyez qu'il y a des actions traitement réclamation, mais une fois, c'est pas une fois qu'on a ça, moi, en tant que délégué, ça me satisfaisait pas parce que la problématique, ça a été dit ce matin, donc du cloisonnement entre les uns et les autres, l'invisibilité pour le grand public de savoir où s'adresser quand j'ai un problème de droit avec mes gosses, je ne sais pas où aller. Et puis les problèmes de droit avec mes gosses, ça ne relève pas forcément de l'enfance en danger. Enfin, les droits de l'enfant, ce n'est pas que l'enfance en danger. Les gens sont perdus. Là-dedans, ils n'y comprennent rien. Et vous avez plaisanté, mais vous avez raison, ou les acteurs ont plaisanté ça l'heure, sur la multiplicité des sigles. Je ne vous dis pas, si on veut compliquer les choses et rendre visible, il faut aussi prendre comme ça. On a raison, multipliant les sigles. Comme ça, on paume les gens. Je peux allusion aux enfants handicapés. On en a parlé au mois de septembre, vous vous rappelez. Donc, l'idée, c'était de dire, créons donc en Moselle, puisque je suis mosellan, une maison de droit de l'enfant qui va être un lieu coopératif, voilà. Donc, pas une association de plus, mais un lieu où vont pouvoir agir et co-agir, vous, d'autres, moi, ensemble, au service du public. Alors, le public, c'est les enfants, les adolescents, les adultes. Je vous concède qu'on a appelé ça la maison des droits de l'enfant et des jeunes. C'est pas très glamour, mais on a tourné autour du pot parce que nommer cette maison des droits de l'enfant, ça veut dire qu'à ce moment-là, pour le grand public, c'est dans les stéréotypes, c'est 3 ans, 12 ans, voilà, c'était clair. Alors, on avait nommé ça maison de droit de l'enfant, de l'adulte, de l'adolescent, du jeune adulte. Comme ça, on a tout le monde. Et pourquoi jeune adulte ? Parce que quand on a 18 ans, 19 ans, on est, comme dit quelqu'un que je connais bien, un ado pas fini et qu'au niveau des droits, on est tout aussi paumé. Et les parents avec. Ou les parents titulaires de l'autorité parentale. Hein. Bref. Et donc, du coup, on a fait le compromis maison des droits et des jeunes parce que le sigle maison des droits de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, ça faisait un sigle imprononçable. Donc, on a réduit. Voilà. Donc, l'objet, c'est vraiment de promouvoir les droits de l'enfant, d'avoir un lieu de coopération où coagissent différents intervenants, quels que soient les domaines, dans le droit, la psychologie, l'éducation. Et la coopération, elle est libre. Donc, voilà. Donc, c'est tous des bénévoles. Hein. OK. Et a priori, on n'a pas vocation à doter la personnalité morale. Alors, pourquoi une telle initiative ? Il y a quelques années avant, quand la défenseur des enfants était autonome, non adossée au défenseur des droits, il fut un temps, dans le cas de la maison des adolescents, donc adossée au centre hospitalier de santé mentale, même si on dit plus comme ça maintenant, de jury, il y avait mon ex-collègue qui faisait de temps en temps une permanence pour traiter les aspects droits lorsque, à l'occasion d'une écoute d'un adolescent, il y avait un de ces aspects-là qui surgissait. Puis ça avait disparu, c'est plus demandé. Et puis on m'a demandé de remettre cette permanence-là. Mais moi, on est là pour tous les enfants, pas seulement les enfants qui sont en difficulté psychologique ou de santé mentale. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, alors s'il est un peu plus étoffé, depuis le 2018, on m'a intégré. Alors, je suis obligé de personnaliser, vous allez comprendre pourquoi, dans un dispositif qui s'appelle Eureka, donc un dispositif Interreg, pour des Européens très compliqués sur les usines à gaz, qui a pour vocation, entre autres, de fédérer et de mutualiser l'action des défenseurs des enfants des pays transfrontaliers, d'ailleurs la Meurthe-et-Moselle est concernée, de mémoire la Wallonie, ce qu'on appelle la grosse région ou la grande région, la Wallonie, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, les trois départements lorrains qui partagent les frontières avec ces trois régions-là, que sont la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Voilà. Alors, il y a plein d'actions. L'IRTS, je sais qu'il est mouillé là-dessus aussi pour les aspects formation, etc. Mais une des actions concernait à mettre ensemble les défenseurs des enfants de ces régions-là pour qu'ils puissent traiter les réclamations qu'ils mettent en droit de l'enfant, hein, traité des réclamations qui mettait en lumière des dysfonctionnements, mais ce coup-ci dans l'espace européen. Autrement dit, les droits de l'enfant au Luxembourg, par exemple, je vous le dis, ici, les droits, quand il y a une mesure de protection de l'enfance qui se met en route, les parents gardent leur autorité parentale, sauf si le juge estime que c'est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais c'est comme ça. Au Luxembourg, dans l'instant où il y a... Ça va bouger, hein. C'est en train de bouger. Mais s'il y a une mesure de protection de l'enfance qui se met en place, les parents perdent immédiatement l'autorité parentale. Bon, en plus, les problèmes de fluidité des informations, etc. Donc, le premier boulot, c'est d'harmoniser tout ça ou tenter de faire des propositions pour harmoniser, traiter les réclamations. Voilà. Sauf que le défenseur des enfants français, il est national. Il n'est pas régional. Voilà, il n'y en a pas. Donc, on s'est appuyé sur le délégué bénévole que j'étais, et que je suis toujours, d'ailleurs, pour coopérer avec ces gens-là. Je ne m'en plains pas, hein. Mais c'est un boulot quand même de dingue, hein. Et puis après, l'idée, c'était de dire, mais s'il y a un lieu, s'il faut inventer un lieu de traitement des réclamations dans l'espace européen, on peut fédérer ça avec l'autre initiative de refaire une maison de l'enfant où on va pouvoir accueillir aussi, enfin, vous comprenez, c'est de faire la greffe sur les deux initiatives. Après tout, on traite, les droits de l'enfant sont universels, c'est la CID, mais on va traiter au sein de la même maison de droits de l'enfant les problématiques européennes et les problématiques territoriales. Voilà. C'est comme ça que c'est né. Alors, les idées fortes du projet de... Alors, c'est encore sous l'ancienne appellation, hein. Maintenant, il faut réduire, il faut enlever le AJ, faut enlever les deux A. Voilà. On passe là-dessus parce que, je vous l'ai dit, c'était le problème d'absence de visibilité des droits par le grand public, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. On a... alors ça, je le découvre, j'en suis moi-même étonné. Moi, je pensais que le... Il y a encore un exemple qui date d'hier soir. Je pensais que, mais c'est naïf de ma part, parce que je pense que... Mais quand on est professionnel de l'enfance, on connaît tout du droit, de la réglementation, de ce qu'on peut faire. En fait, c'est faux. Et donc, du coup, profiter aussi de ce lieu-là pour que ça soit un lieu ressource pour les professionnels ou entre professionnels nous paraît être une excellente idée pour mutualiser un peu toutes les connaissances qu'on peut avoir et qui sont éclatées. L'exemple, il y a d'hier soir, je n'invente pas, une éducatrice m'appelle... en tant que délégué défenseur de droit, il s'agit d'une situation où une dame est hébergée dans un centre d'urgence faisant partie d'une grosse association. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Et cette dame est privée de ses droits de visite par rapport à sa fille. Le service qui a fait le rapport dont s'est servi le juge pour prononcer la mesure de placement et suspendre les droits de visite de la dame, sur des motifs suspects, d'ailleurs, présentés par l'éducatrice comme étant douteux, les motifs. C'est le service de la même association, du même endroit du département. Et je dis, vous en avez parlé, là, un secret partagé, c'est possible, hein, vous êtes de la même association. Ah ben non. Mais j'étais sidéré, mais en même temps, mon boulot, c'est pas de rester sous la sidération. C'est il faut vous parler déjà avec vos collègues, partager l'information. Effectivement, je rentre pas dans le détail de la situation, mais il y a de quoi se parler, réinterroger. Non seulement le juge pour enfants, mais même le procureur de la République sur la décision de placement et la suspension du droit de visite de la maman, qui est absolument anormale, d'autant que les droits de visite ont été confiés à l'exclusivité d'un beau-père. Il s'agit de deux filles adolescentes, et c'est le beau-père qui a des droits de visite, et on se demande ce qui se passe, quoi. Et je pense que le juge pour enfants n'a pas tout vu, pas tout compris. Mais entre services d'une même association, ça ne se parle pas, alors que dire, ouais. Donc profiter de celui-là pour mutualiser, ça nous paraît extrêmement intéressant pour s'auto-former et partager nos connaissances et nos expertises. Donc, c'est écrit tout petit, pardon, mais on répond aux enfants de 0 à 18 ans. On oriente les jeunes ou les enfants ou leurs parents vers d'autres structures ou institutions qui correspondent à leur situation. On est ressource de lieux d'accompagnement, enfin, je résume, des problématiques européennes. On a un espace de sensibilisation sur les thèmes aux droits de l'enfant. Et puis, on va commencer dès l'année prochaine, dès 2022, des conférences, des micro-formations sur des questions éducatives ou juridiques ou citoyennes, dès lors où elles touchent les droits de l'enfant. Voilà, des rencontres sur des thèmes généraux, des partenariats institutionnels. Et je peux vous dire que la salle, alors ça, c'est ma grande satisfaction, tous les défenseurs des enfants étaient là vendredi, la salle était pleine à craquer de différentes associations, le président de la cour d'appel... Ok, je termine. Parfait. J'arrive au bout. Tout le monde était très intéressé. Et ça, c'est quand même la belle et bonne surprise. Donc, ça correspond bien à un besoin. Maintenant, il faut passer au grand public. On ne va pas rester que dans l'institutionnel. On ne sera pas une institution de plus. On ne fait pas de l'accompagnement judiciaire. Ça, c'est voilà, mais on peut conseiller sur l'accompagnement judiciaire. On n'est pas une institution publique de l'enfance. Donc, on n'est pas le bras armé du département. On n'est pas un espace thérapeutique. Voilà, on est généraliste. Les réseaux, bon, j'en ai parlé, hein, vous imaginez bien que c'est extrêmement large. Les moyens, on passe vite là-dessus, mais c'est qu'il y aura dans les moyens, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui est dédié, il y a téléphone, mail, etc. Voilà, je termine juste, Michel Billet. J'ai appris ce matin qu'on disait Billet. Donc, le défenseur des droits, quelles que soient ses compétences, donc défenseur des enfants aussi, c'est là. Donc, le téléphone à ne jamais utiliser parce que c'est infernal. Non, mais le défenseur des droits, c'est aussi une administration avec tous les défauts des administrations. Quand on décroche, c'est quoi votre numéro de dossier ? Voilà, on parlait de bienveillance, d'accueil, voilà, c'est quand même pas... Il vaut mieux écrire. Le mieux, c'est de saisir en ligne. Voilà, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les modèles de saisine en ligne. Voilà, et on peut approcher les délégués que nous sommes de façon très simple. Quel que soit votre département, vous cliquez sur le département et vous avez en rapprochement le délégué de votre coin, de votre secteur. Il y en a deux dans les Vosges, je crois, deux ou trois, je ne sais plus. Bref, et puis vous avez ce libre-réponse. Moi, je ne connaissais pas avant d'arriver au défenseur de droit ce que c'est le libre-réponse. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui mettez le timbre, c'est le destinataire. Votre dossier fait 10 kilos, il fait une page, libre-réponse, vous ne payez rien. C'était fait pour rendre accessibles les saisines. Voilà. Toute dernière diapo. Pour les intervenants sociaux, franchement, je ne peux pas mieux faire. Hein. J'en ai ramené 4 parce que je suis dans le train, donc je ne peux pas... Voilà, mais je vous les laisse. Je les laisse à Laurence. Ça, c'est le guide. Alors, moi, je n'ai pas de pub là-dessus. C'est gratuit. Je ne gagne rien. Je m'en fous. Le défenseur de droit n'est pas une librairie, donc il n'y a pas de plus-value non plus. Donc, on ne fait pas de cash. Mais c'est le guide. Là, il est là. Hein. C'est le guide pratique à l'usage des intervenants de l'action sociale. C'est vraiment destiné à vous. Quelle que soit votre problématique, pas seulement l'enfance, fiscale ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je saisis le défenseur, c'est dedans. Et on a vu, lors du stand qui a été mis en place aux assises du CNAEMO au mois de septembre, que le stand du défenseur des droits a été totalement pillé, mais dans le bon sens du terme, de ces documents-là, et ce document-là plébiscité aussi. Pareil, en ligne, gratuit. J'ai fini. Merci beaucoup.